L'écho d'Afrique sur RCL.
Aïe, 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 aïe. Bonjour encore sur l'écho d'Afrique. Bienvenue chères auditrices et auditeurs sur cette antenne de l'écho d'Afrique. Tu l'entends le sourire ?
Toujours là.
Toujours, Roméo, je suis accompagné de mon binôme, toujours fidèle sur cette émission pour vous amener encore deux imminentes icônes aujourd'hui.
Comme d'habitude.
Cette émission, elle va mettre du feu.
Ah, c'est l'émission peut-être de l'année, on ne sait pas.
L'émission de l'année, effectivement, peut-être.
Sur un sujet
Je connais bien Laurence, donc je ne m'attends pas moins de... Bah, puisque ce que je sais qu'elle peut donner. Hein, ouais. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Valeria, qui accompagne donc Laurence Basinga, pour nous parler d'une émission, d'un thématique très très intéressant,
très important,
la précarité menstruelle.
Ouais.
Et donc sans plus tarder, je sais pas Roméo, tu prends la parole pour nous présenter les invités.
Oui, on les laisse se présenter aussi.
Ou on peut les laisser se présenter.
Parce que
effectivement, il fait beau depuis un certain temps.
Là, on se plaint pas.
Aujourd'hui,
ça s'est calmé un peu.
Mais on peut pas dire qu'il fait.
Il fait pas froid.
Il fait pas froid. On est d'accord.
Bon.
Donc du coup, les filles nous ont quand même ramené un peu de chaleur.
Un peu de chaleur, voilà.
Ça fait plaisir sur ce plateau. Donc, on vous laisse vous présenter, les filles, comme vous voulez. On peut commencer par Laurence ou comme Valeria le sentira.
Bonjour. Alors, moi, c'est Laurence Basinga. Déjà, je suis contente d'être à RCN. Voilà.
Merci beaucoup.
La Radio Caraïbe, Nancy.
Super. Ouais. Alors, donc, moi, c'est Laurence Basinga, présidente de l'association Libactive. Donc, nous faisons la promotion de la langue française à travers des cours de FLE. Voilà. Et aujourd'hui, nous parlons justement de la précarité menstruelle. Voilà.
Alors, tu vas trop vite. Moi, j'aimerais bien qu'on prenne le temps pour que tu te présentes quand même, parce que nos auditrices doivent comprendre l'intérêt du pourquoi on t'appelle une icône parmi les icônes. Parce que l'icône que tu es aujourd'hui dans ta présentation, on l'a pas senti. Pourquoi, effectivement, au-delà, bien sûr, du fait que tu sois présente d'une association et qu'on aura tout le temps pour en parler, moi, c'est ton parcours. J'aimerais justement qu'on puisse quand même valoriser aujourd'hui. Parce qu'une femme africaine, il faut le dire, qui a ton parcours, ça ne court pas les rues.
D'accord, je vous remercie. Je te remercie. Alors, je suis justement donc Laurence Basinga. J'ai fait mes études, je suis née à Paris. J'ai fait une partie de mes études en France, après en Afrique, et je suis revenue à Nancy il y a plus de 20 ans. Et je suis allée au Royaume-Uni aussi, où j'ai fait une partie de mes études et je suis revenue sur Nancy. Voilà.
Tu vois l'humilité dans même la présentation,
c'est-à-dire elle est calme.
Elle est née à Paris et moi j'ai fait justement cette erreur. Excuse-moi, je sais que. Souvent, tu vois, entre nous, quand on se voit dans la communauté africaine, on se dit pas que telle est française, telle est africaine, telle... on te voit,
t'as
une couleur noire de peau, donc t'es africain et tout direct. Donc moi, je t'ai embrassé comme bien sûr tout africain qui pourrait le faire avec on va dire, bienveillance.
Ouais.
Mais là, ça fait plaisir que tu corriges. Elle est née en France.
Elle est née à Paris.
Je suis désolé, il faut quand même le préciser. Ce qui voudrait dire que la problématique dont nous allons parler aujourd'hui, tu la maîtrises.
Oui,
tu sais très bien de quoi il s'agit.
Oui.
Tu n'es pas juste parachuté dans un univers où tu as essayé de t'intégrer. Non, tu es native du terroir. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça m'a vraiment fait plaisir qu'il faut que nos auditrices puissent capter aussi cette puissance que tu veux envoyer de par l'audace dont tu fais preuve en sensibilisant tes aînés ou même tes jeunes sœurs un sujet qui peut être encore très très difficile à aborder. On va y arriver.
Oui.
Mais pour l'instant, ta présentation, j'aimerais juste quand même qu'on prenne deux secondes pour savourer.
C'est ça.
Le talent.
C'est important.
Master au Royaume-Uni. Il faut y aller et le faire.
Mais il faut le dire, madame.
Ah oui, d'accord, pardon.
Vas-y.
Donc, du coup, j'ai fait mes études au Royaume-Uni où j'ai donc obtenu un bachelor degree en éducation et développement professionnel et ensuite un master en actes et recherches en sciences de l'éducation.
Okay.
Voilà.
Chapeau.
En anglais,
je pense que
en anglais.
Il y a rien à dire que de lever les chapeaux et de s'incliner devant devant ce parcours, quoi.
Une icône.
Tout à fait.
Et je sais que on se taquine souvent en anglais parce que, bah, du coup, on peut switcher les mots en anglais comme on veut et revenir en français. Et ça fait tellement plaisir d'avoir cette aisance, effectivement, linguistique qui fait donc de nous notre petite complicité. Vous le verrez, vous l'entendrez à travers cette émission. C'est pour ça aussi que je suis très content de l'avoir sur ce plateau parce que je veux dire que on a une histoire à raconter, on a un parcours qui, à un moment donné, a été un parcours commun. Sans tabou, on va justement casser toutes ces barrières aujourd'hui à travers cette émission. Merci d'avoir pris le temps de te présenter. Je ne sais pas si tu as peut-être deux, trois mots à rajouter avant qu'on ne passe la parole à Valéria.
Je préfère être humble et rester humble.
Et très humble. Hein.
L'humilité jusqu'au L'humilité. Bout. Ah oui, ça fait plaisir. Ouais. Allez, Valérie.
Valéria. Bonjour, Valéria. Bonjour à tous. Je suis très contente d'être là ici aujourd'hui et parler de sujets importants. Je me présenter. Je suis russe, je suis étranger là ici en France et je suis là à Nancy depuis 3 ans. Il y a 3 ans que je commence la vie au zéro avec mes 2 enfants. J'étais née à Moscou et j'ai vécu toute ma vie là-bas.
Ok.
J'ai grandi mes enfants aussi là-bas. Et,
bon, je pose direct ma carte d'invitation pour venir à Moscou un jour si l'occasion.
Hein. Oui, bien
j'adore
sûr.
J'adore voyager, donc dès qu'il y a quelqu'un qui vient d'ailleurs, je te vois, on peut y aller.
Directement. Elle est magnifique, comme Saint-Pétersbourg aussi, ouais. Il Bien. Faut voir
c'est
un
deuxième
jour.
C'est la grande ville, je crois, Saint-Pétersbourg.
Ouais, je pense, oui.
Juste après Moscou.
Juste après, oui. Ouais. Parce qu'à Moscou, c'est 17 millions.
Ah oui, quand même.
La population.
D'accord.
Ouais.
17 millions
elle
d'habitants.
Elle est grande.
Oui, à Moscou.
Ouais.
Quand même, hein.
Mais oui, à Nancy, c'est beaucoup mieux pour moi.
Tu vois que je suis pas mal en géographie quand même. Hein. Je
connais il s'y connaît un peu.
On se débrouille. Hein.
Il s'y connaît un peu.
Vas-y, du coup.
Et votre parcours professionnel?
Mais j'ai eu mon diplôme, master à Moscou aussi, et après master de design graphique, et après j'ai continué mes études à Florence, à l'Italie, ça veut dire que c'est presque bac plus 6, et là ici j'ai commencé tout
à zéro,
ouais.
Chapeau. Chapeau
merci.
Pour ce parcours.
Merci
pour cette présentation brillante.
Et aussi que je, si je peux ajouter,
sûr, oui.
Avec la langue française.
Oui.
Il y a des 3 ans quand je suis là et je commence au zéro aussi avec la langue.
Ah. Donc en fait, c'est ici que tu as tout appris en français et tu arrives à t'exprimer comme ça. C'est incroyable parce que moi, je pense que même 10 ans en Russie, je n'ai pas son niveau en français. On est d'accord.
En Russie, oui.
Vous avez commencé le français ici, vraiment ici?
Oui. Là ici aussi grâce à l'association qui sont permettent prendre le cours grâce à Laurence qui
vous a accueilli, ouvert les bras pour pouvoir vous accompagner sur ce chemin. Oui. Je pense qu'on est très, très, très fiers de ces deux icônes que nous accueillons aujourd'hui sur, dans le studio de RCN, à Radio Caraïbes-Nancy. Nous sommes très, très fiers aussi parce que ces deux femmes, finalement, qui ont des parcours atypiques, enfin, parce que, la normale demande à ce qu'on finisse et qu'on ait un travail et qu'on devienne salarié et vous sortez justement de ces cases-là où, voilà, il y a une qui a osé créer son association, qui est aujourd'hui fondatrice de tout un, on va dire, mouvement que tu accompagnes parce que ça a des tentacules qui sont tout doucement en train de se former. Et on a, incroyable, un parcours d'une talentueuse russe qui fait son parcours jusqu'en master, qui a, enfin, je sais pas si tu l'as abandonné, mais en tout cas, la vie a fait qu'à un moment donné, tu as dû tout reprendre à zéro. La peur de l'inconnu que nous tous nous connaissons. On est tous plutôt mieux dans notre coin où on sait que voilà, on a fait notre master, on peut facilement avoir un travail. Et vous abandonnez peut-être tout ça pour venir reprendre à zéro et une langue comme la langue française qui n'est pas donnée.
C'est compliqué. Moi, je suis choqué.
Qui n'est pas donnée.
Je suis choqué de comment
la langue française. Je pense qu'elle fait partie des langues les plus compliquées, si je n'abuse pas.
Plus compliquée avec la prononciation.
La prononciation, effectivement.
Pourtant, on comprend très bien.
D'où le fait qu'on vous tire chapeau.
C'est incroyable.
C'est incroyable. Merci à vous de nous faire honneur d'avoir accepté de venir parler à nos auditrices et auditeurs qui vous écoutent et qui peut-être, à un moment donné, sont quelque part dans votre parcours et se posent des questions. Et que grâce à cette émission, nous pourrons envoyer des ondes positives, des conseils, peut-être même susciter des vocations pour certains qui ont peur de reprendre tout à zéro alors que justement leur passion leur dit d'abandonner là où ils sont actuellement, ou tout simplement certains qui vont oser aller plus loin dans ce qu'ils font, ou aujourd'hui ils sont peut-être des salariés mais pourront justement innover et créer des associations pour que demain on ait plus des parcours de Laurence Bastenga ou en tout cas de Valeria qui nous viennent encore dans cette émission pour enrichir notre émission qui est l'Écho d'Afrique. Sans plus tarder, nous allons, je pense que le décor, il est planté là.
Moi, je suis encore stupéfait des invités. Hein. Moi,
j'ai vu que tu es depuis scotché.
Les invités, c'est incroyable. Incroyable ce qu'ils nous ont ramené.
Vas-y, Roméo, prends le temps maintenant de rentrer dans la thématique pour qu'on puisse savoir.
Oui, je vais expliquer quand même aux auditeurs.
Qu'est-ce qui les amène aujourd'hui.
C'est-à-dire que Laurence, parce que normalement, de base, c'est nous qui allons chercher les invités. Moi, ce qui m'a le plus plu, c'est que Laurence est venue nous voir, personnellement.
Il faut dire que ça fait 8 mois que je lui demande de venir.
Oui, c'est vrai que ça fait 8 mois qu'on lui demande de venir. Mais là, on ne l'avait pas sollicité forcément dernièrement. Et là, elle est venue nous voir pour nous parler de ce sujet-là, qui est très, très, très important. Très, très, très important, le sujet. Elle est venue nous voir, elle nous a envoyé un petit message. Moi, j'étais content.
Des fois, vous pouvez aussi nous solliciter pour faire des émissions avec nous. Nous venons des fois vers vous pour vous chercher et faire des émissions. Mais quand on a des cas comme ça, ça fait tellement plaisir.
Ça nous rend heureux.
C'est-à-dire que nous, on a juste à préparer l'émission.
Et c'est tout. Et faire ce qu'on aime finalement.
Et
c'est pour parler d'un sujet aussi important. Et justement, il va en parler tout à l'heure, mais il voulait aussi parler d'un événement qui arrive bientôt. Sur 2 jours, je pense, le 13 et le 14, qui arrive bientôt, oui.
Oui.
De l'association Libactive. Donc vraiment, moi, je me suis dit, moi, j'ai pas tardé, hein. Je lui ai dit, madame, je crois que c'était il y a 2-3 jours, j'ai dit, madame, si vous pouvez venir dans 3 jours, moi, je suis bien. moi, je vous prends, il n'y a pas de souci. Et vraiment, encore merci beaucoup d'être là.
C'est moi.
Merci, c'est un honneur. Votre parcours, il est incroyable.
Exactement.
Il est incroyable. Merci aussi à Valeria.
Merci beaucoup.
Encore scotché par le français, hein. Toujours scotché par le français. Effectivement, peut-être avant de faire une pause musicale pour ensuite rentrer vraiment, vraiment dans le décor, et peut-être laisser Laurence nous expliquer un peu c'est quoi Libactive, simplement.
Bien sûr.
Présentation. Hein. De Libactive, et après tu nous diras après comment tu l'as créé, vos actions, etc.
Oui.
Comme ça, après on parlera de précarité menstruelle,
mais
je pense que c'est important de commencer par la situation.
D'accord. Alors, oui, je vous explique. Alors, Libactive, c'est une association qui a été créée en 2021, en juin 2021, et qui fait la promotion de la langue française. Faut d'abord, qu'est-ce qui m'inspire en fait à créer Libactive? Moi, au début, j'étais étudiante au Royaume-Uni, quand je faisais donc mon master dans les sciences de l'éducation, à temps partiel, j'étais enseignante aussi. Et donc, en plus de ça, je gérais une association académique, qu'on appelle en général des clubs, non, à l'université, où justement, on faisait de l'apprentissage de la langue française, donc aux étudiants.
Okay.
Sur place, et on leur permettait justement de se connaître, surtout pour les nouveaux étudiants qui arrivent, qui connaissent personne. C'était un moyen de faire connaissance, d'apprendre à parler une langue, ou alors de renforcer ses compétences en français pour ceux qui avaient comme sujet la langue française en licence, etc.
Okay. Donc, ça me rappelle un peu moi mon parcours, puisque j'étais étudiant dans une université anglophone au Ghana, et donc on travaillait beaucoup avec les étudiants ghanéens qui s'intéressaient à la langue française, et donc on faisait aussi des activités, j'étais président de l'association des étudiants francophones de mon université, un petit coucou à eux si cette émission arrive jusqu'à eux, et donc ça nous a permis de commencer nos premiers pas dans l'engagement associatif qui nous amènera jusqu'à ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et ça fait tellement plaisir que on voit que ceux qui y arrivent plus tard sont ceux qui ont commencé très tôt.
Très tôt, c'est ça.
Tout à fait. Donc justement, donc en même temps, comme je disais, j'étais aussi enseignante
dans des collèges en Angleterre, mais aussi à l'université de Cardiff, où j'enseignais justement la langue française. Donc du coup, j'avais vraiment de quoi m'occuper de l'association. J'avais vraiment des compétences, tout ce qu'il faut. Et donc, j'ai démarré, ça s'est très bien passé. Mmh. Et puis, il y a eu le Brexit et le Covid. Donc voilà, donc à ce moment, je me retrouve donc en France parce que j'ai grandi à Nancy et donc ma maman vivait à Nancy, ma famille aussi. Donc je quitte dans l'Angleterre, je reviens à Nancy où on fait connaissance.
Je
pense qu'on va revenir sur ça parce que
dans des conditions particulières.
Il y a des choses à me dire.
c'est très compliqué. Ouais. Mais effectivement aujourd'hui ça fait plaisir de raconter ça quoi.
Et qui aujourd'hui me permettent justement de parler de ce sujet parce que c'est des situations que moi j'ai vécues. Que ce soit en Angleterre ou ici, et donc je sais de quoi je parle et je suis consciente du besoin de la problématique aussi, et nous essayons d'apporter des solutions. Quoi. Voilà.
Sans plus tarder, on va marquer notre première petite pause
musicale et après on va rentrer dans le sujet et vous allez me raconter comment vous vous connaissez. Hein, parce que
tout à fait.
Parce que vous nous avez choisi, donc vous avez fait un choix de musique particulier.
On va découvrir.
Sur les femmes, moi j'ai choisi.
On découvre.
On découvre.
CN, L'écho d'Afrique.
Aïe, aïe, aïe. On est de retour.
De retour sur RCN.
Alors, cette pause nous a fait du bien.
Et le début aussi nous a fait du bien.
Oh oui. Et là, on va réenchaîner directement en donnant la parole à Valéria, excuse-moi,
ouais,
je vais y arriver.
Merci beaucoup.
Et Valéria, qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi qui t'a personnellement donné envie justement de t'engager pour cette cause de l'association Libactive?
Je pense que je peux partager de ma situation réelle et oui, situation privée. Que oui, la première chose, bien sûr, c'est quand je déménageais en France, totalement déménagé en France, il était très, très difficile, en même temps très important, prendre la langue, prendre le cours de langue.
D'apprendre la langue, ouais, effectivement.
Et en fait, jour par jour, j'ai vu combien de temps et comment les gens sont engagés dans le côté des solidarités.
Dans le social.
Fait, social, ça me touche vraiment et ça me donnait envie aussi
de vous engager.
D'engager mon temps, de partager avec les gens qui sont vraiment en précarité, qui sont envie d'être, d'être avec d'autres personnes aussi, parce que c'est pas que l'aide, c'est aussi ce partage émotionnel.
Aussi.
Oui.
Et ce qui m'intéresserait, par exemple, là, dans votre réponse, c'est de savoir, même si vous avez envie, on a vu dans votre introduction que vous étiez maman de deux enfants, comment on arrive à trouver du temps pour s'engager? Parce que s'engager dans l'association, il faut vouloir,
c'est
mais
ça,
il faut aussi le pouvoir.
C'est ça.
Et vouloir n'est pas forcément pouvoir. On peut avoir envie et ne pas pouvoir le faire.
C'est ça.
Et sur le je pense que
comment
c'est,
vous avez fait,
il faut avoir grand cœur pour ouais, ça. C'est la première chose.
Je pense
motivation.
Que Romeo a aussi un grand cœur d'ailleurs. C'est pour ça qu'il se retrouve dans votre réponse. Un très grand cœur. Non, mais Romeo, ouais, on a aussi une histoire. On va partager d'ailleurs avec les auditeurs. Ouais. Mais le grand cœur, pour moi, en fait, ça ne répond pas à la question de savoir votre temps, l'emploi du temps que vous avez, qui est avoir déjà un enfant.
C'est la question d'organisation.
On sait ce que c'est. Ouais. Avoir deux enfants et avoir du temps pour l'organisation, enfin, pour votre engagement. Et je pense que vous avez peut-être une vie très bien organisée. Alors, quel
c'est
est
vrai,
votre secret?
Secret, mais moi je suis maman des deux enfants. Pour l'instant, ils sont adolescents. Dans
d'accord,
un mois, 17 ans dans
okay,
un mois.
Bon.
C'est des jumeaux, faux jumeaux, c'est okay, filles, garçons.
Ah.
Oui, ils sont.
On comprend mieux déjà.
Bien installés, oui. J'ai mon habitude pour d'être toute seule depuis 12 ans
okay,
avec eux. Je suis maman solo.
Okay.
Et ça me permet oui, bien organiser
pouvoir
ma
okay,
vie.
Alors.
Et je suis bénévole
voilà,
dans plusieurs aussi
associations.
Oui, et ça me donnait vraiment, je ne sais pas, c'est mon grand cœur qui me donnait ça ou ça inverse que
c'est
engage et
oui,
partage, ça me donnait d'être
ouais,
avec
ouais,
le grand cœur.
Encore une fois, on comprend très bien ce qui est dit. Hein.
Oui, oui, oui. C'est très clair. Mais pour nos auditeurs, je vais peut-être juste rebobiner. Ouais. En fait, ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle ne sait pas si c'est parce qu'elle a un grand cœur qu'elle s'engage autant dans les associations ou c'est parce qu'elle est engagée dans les associations qui lui donnent justement la force de pouvoir avoir un grand cœur. Donc, mais dans les deux cas, elle sait qu'elle aime ce qu'elle fait et qu'elle
oui,
arrive à pouvoir
c'est
s'en
vrai,
sortir et elle est très très contente.
Et aussi d'être à côté de bonnes personnes
comme
Laurence,
forcément,
oui, par exemple,
ça aide.
Ça aide aussi et ça inspire.
Ah oui, on n'a que deux personnes qui sont inspirantes aujourd'hui dans ce studio et donc ça me permet justement de revenir sur, je te laisserai du coup
oui, on va revenir sur Laurence.
Vers Laurence.
On a parlé justement du 13 et 14 mars du coup,
oui,
l'événement qui arrive. Pourquoi avoir choisi d'organiser ça, cette collecte, peu après la journée des droits de la femme? C'est lié.
Alors, déjà on a choisi d'organiser la collecte pendant cette période de la Journée internationale des droits de la femme, parce
ouais,
que c'est un moment important
ouais,
pour rappeler aussi l'égalité que l'égalité passe par la santé, par la dignité aussi, et avoir des protections hygiéniques restaure la dignité des femmes qui sont dans la précarité. Donc, du coup, c'était aussi notre façon de marquer ce moment qui est important.
C'est une première ? C'est une première ou...
Alors, on a l'habitude de faire des collectes avec d'autres associations en binôme, ouais. Voilà. Et là, c'est la première fois qu'on le fait tout complètement, on est tout seul là.
D'accord, donc pour que nos auditrices et nos auditeurs puissent bien comprendre ce dont nous parlons, parce qu'on a posé le décor au début, et quand on est revenu peut-être dans la deuxième partie, on a des auditeurs qui viennent de nous rejoindre et qui ne savent pas de quoi on parle. Aujourd'hui, le thème, c'est la précarité
menstruelle.
Et c'est dans ce cadre que l'association Libactive, qui saisit donc cette émission, pour présenter son programme de collecte à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. Et cette collecte concerne des collectes
de produits hygiéniques, de protection hygiénique particulièrement, parce que justement la précarité menstruelle reste un phénomène en France.
Bien sûr.
Avec plus de 4 millions de femmes qui sont victimes donc, de cette précarité-là.
Vous imaginez quand même, les chiffres sont énormes.
Énorme. 4 millions, c'est énorme.
4 millions, tout à fait.
C'est énorme.
Oui.
Et juste donc, en France,
qui,
en plus.
Qui n'ont pas accès à des protections hygiéniques. Et parmi ces femmes, on peut penser, par exemple, à des étudiantes. On a des femmes on a 40% de ces femmes entre 20 et 29 ans. On pense à des étudiantes. Des fois, quand on est étudiant, on ne se rend pas compte, mais quand on veut exceller, des fois, on achète des articles, on a du matériel qu'on achète. Et des fois, on doit faire un choix entre acheter ces articles-là ou acheter des protections.
Hygiénique.
Et ça ne devrait même pas être un choix.
Et quand on veut avoir des bonnes notes, ben on se dit, bon, on achète des articles, on zappe un peu les protections, on se débrouille avec des tissus, des trucs. Sauf que ça rend malade après, ça donne des infections et tout. Donc il y a un gros problème de précarité menstruelle dont on en parle.
Donc le problème, c'est vraiment principal, c'est le prix de ces.
Alors, c'est pas tant. Alors, comme je disais, on a beaucoup de femmes, par exemple, qui souffrent de fibromes, qui souffrent de ce type d'endométriose.
Ouais.
Et c'est des femmes qui perdent beaucoup, qui ont un flux de sang, qui perdent beaucoup de sang.
Ouais.
Et donc, du coup, un paquet de protection pour un mois ne suffit pas. Il faut avoir 2-3 paquets. Et donc, on est vite en précarité. Les gens, en fait, on ne se rend pas compte, mais c'est un problème.
C'est un coût.
Sauf que, comme ça concerne la protection hygiénique, c'est un peu d'ordre intime.
Ouais.
Justement, il y a un petit tabou, il y a une petite honte à en parler. Donc,
Alors, ce que je ne comprends pas, c'est parce que moi, j'ai suivi une émission tout récemment sur Quotidien, où il y avait effectivement une artiste... un artiste qui était venu en parler, Yann Batez pose une question à tous les invités à un moment donné. Si vous étiez président de la République, quelle serait votre première action? Et cette dame disait, cet artiste disait que sa première action serait justement de rendre gratuits les produits hygiéniques. Ça m'a parlé parce que moi, je savais déjà un peu la problématique, parce que dans le milieu associatif, j'ai pu toucher un peu ce sujet du doigt pendant un certain temps. Mais de comprendre autant que... Et là, tu nous apportes encore un petit éclaircissement aujourd'hui, que le problème touche plus de 4 millions de Français.
4 millions, c'est énorme.
On est quand même en France. Et donc, imagine un peu dans les pays... en voie de développement,
ça
doit être
qu'en France,
90%, quoi. et quelques minorités qui arrivent vraiment à pouvoir se permettre de vraiment avoir une situation financière qui leur permet de faire face à ces besoins-là. Donc, jusqu'où on doit aller dans l'échelle de la société, c'est-à-dire limite, on va dire qu'aujourd'hui, en l'état de ce que vous me décrivez, il faut faire partie de la classe riche pour pouvoir finalement faire face réellement à ses besoins en termes de produits hygiéniques. Et donc, revient encore à dire que c'est très très urgent que le gouvernement ou en tout cas que les autorités puissent saisir ce sujet-là à bras le corps. Et on a l'impression que beaucoup de choses sont faites quand même déjà. Mais il y a beaucoup qui reste encore à faire.
Oui, il y a beaucoup qui reste à faire.
Mais qu'est-ce qui expliquerait ça? Est-ce que c'est parce que, par exemple, il y aurait une augmentation, par exemple, du nombre de jeunes filles qui augmentent d'une manière exponentielle chaque année? Ou bien c'est plutôt, comme tu disais, plus sur le côté de la maladie, la santé qui fait que bah, y a plus de femmes, par exemple, qui se retrouvent dans des situations d'endométriose et que du coup, le chiffre-là gonfle à chaque fois, malgré l'effort que fait le gouvernement. Mais qu'est-ce qui pourrait expliquer ce retard à chaque fois pour pouvoir... Pourquoi est-ce qu'on ne décréterait pas que la carte vitale permettrait, par exemple, d'avoir un produit hygiénique gratuitement?
Oui, ça peut être une bonne solution. En fait, je pense que le souci, c'est que on en parle très peu.
C'est ça.
Donc, okay. Peu de personnes ne sont conscientes de cette précarité menstruelle. Moi, je prends mon exemple. Quand je vivais sous le toit de mes parents, ben, je ne connaissais pas de précarité menstruelle. Mais quand je suis partie en tant qu'étudiante, ben, j'ai vécu aussi certaines réalités où c'est devenu, où j'étais consciente de cela. Et maintenant, à l'association avec les femmes migrantes qu'on reçoit, ou alors des femmes SDF, etc., bah, c'est une réalité. Donc ça existe, cette précarité-là, mais on en parle très peu. Et je pense que...
Quand on dit on en parle peu, est-ce qu'on rentre dans le cercle familial? C'est-à-dire que même au sein d'une famille, par exemple, les parents devraient prendre le temps d'éduquer leurs enfants, par exemple, sur cette réalité, okay, pour qu'ils puissent prendre conscience que c'est un budget qu'ils doivent savoir gérer et ne pas, par exemple, aller le dépenser dans un iPhone et après se retrouver avec des situations difficiles. C'est à quel moment la communication, en fait, fait défaut?
Moi, je dirais que c'est même quelque chose qu'on doit intégrer au niveau de l'école. Parce okay. que quand on parle d'éducation, on parle plus de l'école à la maison. Aujourd'hui, les parents sont occupés. Voilà, donc oui, c'est quelque chose qu'on peut intégrer à l'école. On peut enseigner aux jeunes filles, aux jeunes garçons, à tout le monde. Hein. On peut parler de précarité, sensibiliser... que les personnes soient conscientes que ça existe, que tu vois, apprendre, parce que c'est quelque chose qui est tellement on peut banaliser, c'est-à-dire que tu peux vivre la précarité sans t'en rendre compte.
Sans t'en rendre compte, ok.
Oui, sans t'en rendre compte. C'est quand ça devient, par exemple, quand ça commence à t'empêcher d'aller à ton travail, parce que tu peux te retrouver en précarité et tu ne peux pas aller au boulot parce que il t'en manque et donc tu peux pas bouger parce que tu dois jongler. Et rester à la maison entre voilà, les toilettes et la maison. Et donc, tu restes à la maison. Donc,
J'aimerais que tu prennes le temps de bien le dire parce que tu as survolé la phrase là. C'est-à-dire, pourquoi les gens restent à la maison? Parce qu'ils sont justement dans une situation de précarité menstruelle. C'est oui. parce qu'ils n'ont pas l'argent pour s'acheter des produits hygiéniques. Tout et donc, fait. Ne peuvent pas se protéger pour se déplacer et sortir de chez eux. Oui. Donc, ils sont obligés de rester chez eux. Et ça, oui. je pense qu'il faut qu'on le dise.
Il faut, c'est... Oui.
Parce que des fois, le papier hygiénique que, oui. Que certaines personnes vont utiliser pour remplacer bah, ne peut pas te permettre de tenir
toute la journée.
Même pas, oui. non,
toutes les deux heures.
Toutes les deux
heures,
moins,
voilà.
Au moins. Donc, ça ne te permet pas. Donc, du coup, tu ne peux pas prendre le risque. Tu es enseignante, tu te places devant les élèves, tu ne vas pas prendre le risque. Voilà. Donc,
et d'ailleurs, elle parle en connaissance de cause, puisque c'est aussi une autre casquette qu'elle ne nous a pas dit, mais elle est professeure au lycée. Hein. On est d'accord?
Oui. J'étais enseignante.
Voilà.
Là, et,
donc, elle sait de quoi elle parle.
En fait, on a un exemple.
Au-delà
voilà,
de
concret.
Ce qu'elle est en train de dire, j'aimerais me tourner vers toi, Roméo, pour... Ouais. Me poser moi-même une question. Est-ce que ce combat-là, on pense que c'est souvent un combat de femmes, que ce sont les femmes qui doivent en parler?
Justement.
Est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas aller plus loin et dire que même nous, les hommes,
c'est ça.
On doit pouvoir s'approprier ce combat et en parler? Parce
c'est
que on est des papas, on a des filles, on a nos mamans, on a nos sœurs, on a nos tantes. Enfin, à un moment donné, ça ne peut pas être que le combat des femmes.
C'est ça. Comme elle a dit, c'est tabou.
Oui,
c'est tabou.
Oui, si. Les hommes aussi doivent s'y mettre. Ça touche les femmes. Quand on est en précarité, on est en manque. C'est comme si on disait qu'il y a des personnes qui n'ont pas à manger, qui ne peuvent pas se nourrir. Donc, ils sont à la maison et qui n'ont rien à manger pendant une semaine, pendant 3-4 jours. Donc, ça devrait alerter tout le monde. Tout le monde devrait se sentir concerné. C'est pas parce c'est que c'est féminin, c'est dans le cadre de l'intime, mais ça reste la précarité, vous êtes en manque. vous êtes en manque parce que naturellement, vous en avez besoin.
C'est ça, c'est naturel. Donc, c'est presque un besoin vital.
Donc, c'est un besoin vital.
C'est un besoin
donc,
vital.
Donc, à un moment, vous êtes coincé et vous ne pouvez pas en parler. Parce que quand vous êtes coincé, vous ne pouvez pas en parler. Parce que quand vous allez en parler à ce moment-là, la personne en face de vous se dit...
Mais pourquoi elle ne peut pas l'acheter?
Non, mais ou même elle se dit, si elle en parle, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'elle a en ce moment? Elle a, ça veut dire qu'elle n'a rien en ce moment. Et ça vous donne déjà une image,
d'elle,
de soi, de la personne qui...
Sa situation financière.
Ou hygiénique, que la personne n'est pas, ne fait pas attention à elle. C'est vraiment
Et ça renvoie
c'est compliqué.
Une autre image.
Ça renvoie une autre image.
Ça aussi, c'est une peur que justement la petite fille peut avoir. La peur de regarde des gens.
Tout à fait.
C'est question très très délicate.
Ouais.
Très très intime et pas chaque femme peut parler de ça.
C'est ça.
Aussi, c'est très souvent, c'est la question pour le jeune femme, d'étudiant. Ils sont ratés ces courses à cause des manque de.
Donc, justement, et j'ai pensé à une situation où, par exemple, comme Valéria, si par exemple un père. Comme tu as dit tout à l'heure, est-ce que les hommes devraient en parler? Un père qui, comme Valéria, par exemple, devient père unique, qui a une fille. Si tu vois, s'il n'y a pas la communication dont tu as parlé tout à l'heure, quand la fille est grandie, il n'aura peut-être pas le courage de dire à son père, papa, j'ai besoin de ça, papa, j'ai besoin de ça. Tu vois? Et c'est pour ça que moi, je trouve que c'est important. Très important même que les hommes.
Parce que le nombre d'hommes qui se retrouvent seuls avec leurs filles à devoir les éduquer, il y en a pas mal. Et ce n'est pas un cas spécial. Enfin, moi, j'en connais plein des hommes qui sont avec leurs filles, qui les ont étudiées seuls. Donc, du coup, oui, effectivement, ce n'est pas évident ni pour le papa d'en parler avec sa fille, ni pour la fille d'en parler à son papa. Donc, enfin, à un moment donné, il faut qu'on commence justement à impulser ça dans la société.
C'est pour ça que, comme elle a dit, l'éducation. À l'école, c'est important.
Tout à fait.
L'éducation, c'est important, justement. À l'école, par exemple, si le papa n'a pas forcément, ou la fille n'a pas forcément le courage d'aller voir son papa, si elle écoute sa professeure en parler, ça peut la motiver, tout simplement.
C'est vrai.
C'est ça, c'est vraiment. C'est des petits détails comme ça qui peuvent tout changer, en fait, je trouve.
Oui, et si je voulais ajouter, par exemple, lorsque le flux est important, vous avez des serviettes spéciales aussi pour les flux importants et qui coûtent beaucoup plus cher.
Beaucoup plus cher.
Et donc déjà, si vous n'avez pas les moyens de vous acheter les serviettes qui coûtent beaucoup plus cher, vous utilisez des serviettes normales, sauf que vous devez doubler ou tripler. Et donc, un paquet, en une journée, vous l'avez fini.
Waouh.
Oui.
Ah ouais, ça va aussi vite.
Ah oui, si vous triplez, il y en a 10 dans un paquet ou ça
dépend. C'est vrai que je n'ai même pas conscience.
Tu vois, c'est ça que je t'ai dit. C'est exactement ce que je t'ai dit. En fait, l'éducation ne s'arrête même pas aux filles. En fait, je pense que même les garçons. Je dis pas qu'on doit tout savoir, mais quand même, je pense qu'on doit quand même y avoir une éducation sur ce sujet-là.
Parce qu'on s'intéresse pas, en fait.
Parce que pas du tout. C'est ça. C'est
il y en a 10, 16. Donc, si tu doubles, t'as fini ton paquet.
Tu vois, par exemple, là, c'est dommage de savoir que là, on vient de savoir qu'on peut doubler, tripler. Moi, je viens de le savoir maintenant. Je l'assume, mais c'est quand même dommage.
Si tu peux pas t'acheter les protections qui font max, qui prennent les flux importants, bah, tu es obligé de doubler. De doubler celle que t'as, qui coûte pas grand chose, mais ton paquet.
C'est des choses qu'on devrait apprendre dès très jeune.
Et comment finalement est née l'idée de cette collecte de protection hygiénique? Comment on part de la création d'une association LibActive qui, vous nous aviez dit, et je le rappelle à nos auditeurs, donne un peu de connaissances linguistiques aux membres de votre association, et on en arrive. On collecte des objets, des protections, des produits hygiéniques.
Alors, l'idée est née simplement, comme je disais, que moi-même, j'ai vécu ce genre de choses. Donc, je comprends bien celles qui sont en face de moi. J'ai eu des apprenantes qui venaient vers moi, qui ont un bébé et qui, des fois, doivent choisir entre le lait de bébé et les protections hygiéniques.
Wow.
Donc, des fois, je leur dis...
C'est des besoins vitaux.
Bah, apprenez, il y a des paquets, donc elles peuvent se servir et tout. Donc il y a des réalités qui font que on connaît, on sait que le besoin existe, on a des personnes qui viennent, qui nous demandent. Donc du coup, on s'est dit, et puis on l'avait déjà fait avec d'autres associations.
Oui, vous l'avez rappelé au début de l'émission, qu'effectivement, c'est toute une première que l'association LibActive organise cette collecte toute seule.
Mais qu'avant, elle l'a fait avec plusieurs associations.
On vous encourage vraiment à les soutenir parce que ça ne va pas être évident pour eux. Donc, soutenez maximum cette association qui, on vient de le voir, de par leur présentation, sont en train de vraiment s'attaquer à quelque chose de très important dans la société. Et donc, même si les autres partenaires ne sont pas peut-être cette fois-ci avec vous, on appelle ici tous les autres partenaires à venir d'une manière spontanée, puisque c'est un sujet qui nous concerne tous et toutes. toutes et tous. Et donc, pour que nous puissions tous mettre la main à ce sujet-là. En tout cas, moi, personnellement, je le dis ici, devant tout le monde, je ferai tout pour pouvoir participer à cette collecte.
C'est ça.
Financièrement, physiquement, et pourquoi pas sensibiliser autour de moi le maximum possible. Et j'espère que, voilà, nous tous, nous allons faire de même pour que, autour de nous, cette émission... En tout cas, vous serez la bienvenue pour qu'on refasse une émission, peut-être retour sur la collecte, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il faudra peut-être faire pour les prochaines éditions, et améliorer justement ça pour que ça soit quelque chose qui, finalement, s'inscrivent dans le temps
Bien sûr,
transcendent finalement nos simples personnes pour que même des générations après, on puisse continuer à lutter contre ce sujet-là.
Bien sûr.
Alors, cela nous ramène naturellement à la question suivante que je te laisserai poser, Roméo, mais on va se tourner vers Valéria cette fois-ci.
Valéria, j'ai une question simple et efficace. Elle a déjà dit plusieurs fois quelles sont les conséquences de cette précarité sur la vie quotidienne des femmes et des jeunes filles. Elle l'a dit par son expérience, parce que vous venez de donner la vôtre peut-être. Et après, vraiment nous aiguiller, comme elle l'a dit, elle a aiguillé tout à l'heure, elle a dit que des fois on a besoin de 2, 3, voire 4 par jour. On ne le savait pas. Si vous pouvez aussi aiguiller, rentrer un peu plus dans les détails de vraiment le quotidien des jeunes filles, des jeunes femmes qui vivent cette précarité menstruelle, ce sujet tabou-là, de votre expérience personnelle par exemple, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le sujet?
Moi je peux parler de ma vie.
Allez-y, faites-nous votre témoignage.
Aussi, moi j'ai deux femmes en fait dans ma famille, c'est moi et ma fille. Et nous, comme en fait dans aussi situation en précarité, dans situation financière grave, grâce à l'association, on a eu le produit d'hygiène en fait.
C'est
grâce à l'association comme ça. Et derrière tout ça, derrière manque des produits hygiéniques, en fait, y a des maladies aussi. Et si on ne peut pas acheter assez, si on suffit de tous les produits hygiéniques, serait plus grave les situations, serait plus grave pour nous comme pour les femmes.
Alors si j'ai bien compris ce que vous voulez dire, c'est que il faudrait que nous tous on fasse des actions comme l'association pour permettre à ce que des personnes en situation de précarité
pour parler
moins stigmatisées.
Plus souvent parler de cette chose, de ce sujet, pour envisager le problématique pour tous.
De manière globale, oui.
Et par exemple, déjà si on va parler de Nancy, il y a des 55 000 étudiants à Nancy et 30% d'étudiants ils sont en précarité.
Donc, elle rappelle les chiffres, on a 55 000 étudiants, donc effectivement, sur l'agglomération nancéenne. Et sur ces 55 000, nous avons 30% qui sont en situation de précarité menstruelle.
Juste à Nancy.
Oui, et c'est très souvent, c'est
bien de rappeler ces chiffres parce que ça nous parle finalement plus que juste de dire comme ça qu'il y a beaucoup de gens, mais... Là, on arrive à percevoir un peu avec les chiffres, bien sûr, c'est le pouvoir des chiffres, avoir une certaine un pourcentage de personnes qui sont dans cette situation-là. Et là encore, ça nous rappelle
30%,
la gravité de la situation. C'est incroyable.
Et en fait, tout le temps, c'est beaucoup plus... on parle d'alimentaire pour remplir le frigo. Mais moi souvent des...
C'est ça.
Ah oui, non, mais c'est clair que de toute façon, le combat alimentaire, on ne peut pas être égalé au combat. On le sait que partout où on tourne la tête, on voit, donner quelque chose pour aider la précarité alimentaire, enfin en tout cas, aider les étudiants pour qu'ils puissent manger. Mais presque jamais... On entend, moi là où j'ai même pu entendre parler de cette situation de précarité menstruelle, c'était en réunion de responsables d'associations où on nous demandait de réfléchir sur certaines propositions, mais ça s'arrête là, je ne me suis même pas, pas été plus loin que ça.
C'est pas un sujet qui est globalisé, c'est vital.
Et en fait, à cause des questions très délicates, On fermait les yeux pour,
cet sujet.
C'est ce côté intime en fait qui dérange, c'est ça. Alors c'est naturel, quoi. C'est, on peut rien y faire.
Il y a le côté intime, mais il y a aussi le fait qu'on ne sait même pas que ça existe.
Hein. C'est ça.
C'est comme vous disiez tout à l'heure, hein, que voilà, on n'en parle pas souvent, donc on ne sait pas que ça existe.
Et du coup, qui pourra bénéficier des produits récoltés après la récolte, après la collecte
Alors, après la collecte, on a les femmes donc de l'association Libactive qui vont donc bénéficier de ça.
Ouais.
Et on a aussi une association sur Paris, l'association ADSF, qui a justement été nominée parce qu'elle a mené beaucoup d'actions dans ce sens. Contre la précarité menstruelle, et elle aide beaucoup de femmes, que ce soit des femmes migrantes, des femmes, voilà. Donc elle a vraiment un gros réseau avec beaucoup de besoins. Donc si nous avons un surplus, nous allons bien sûr penser à cette association-là aussi.
Ok.
Eh ben merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos témoignages. Je pense qu'on va mettre une petite pause
musicale et après
musicale et on revient très vite. Merci.
Elimba diga loyaka amuruno bunya bongo baya bebwe wenge a o na poisomele wa mona munyenge mwese de a o na poipende jako nyola nae Una dinga nga ene kombo ade kom la na moto asiwe lebe botilo njomandi elibatika loyaka muruno osito di pete njago nganto wa bongo bwewenge Woko koloko wami peso ininga Motango sope ombo wami Eibena loyo kito sawe yamba Nganto wa mobi ene Woko koloko mapeso njenu bimba Mambo mamindo malondi kombo Obangi sote kwa la modi mabumba
RCN, l'écho d'Afrique.
Aïe, 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 RCN, l'écho d'Afrique, on est de retour. on a eu le temps et l'honneur.
Deuxième pause.
Ouais, l'honneur vraiment d'écouter Laurence et Valéria nous parler d'un sujet très, très, très important.
Ça fait du bien. Hein.
Vraiment.
Non, mais franchement, ce qui est intéressant dans cette émission, c'est qu'à chaque fois, nous-mêmes, on en sort instruits.
Moi, j'ai appris des choses
et
aujourd'hui.
C'est... Mais ça a toujours été comme ça. Il n'y a pas une émission qu'on ait fait où c'est on ça. Est sorti indemne. C'est-à-dire qu'on rentre dans l'émission, il y a forcément un truc qu'on ne connaissait pas et on en sort. En tout cas, pour nos auditeurs, vous nous direz dans nos commentaires si vous êtes d'avis avec nous, mais... Et on dort toujours moins bête à chaque fois qu'on fait une émission.
Et
j'ai
incroyable.
L'impression que je devrais passer ma vie
à faire des émissions finalement.
Et forcément pour élever la culture, élever notre niveau.
Surtout parler d'un sujet aussi important.
C'est
un sujet incroyable. Aussi tabou. Je pense que vraiment il faut accentuer le fait que ce sujet-là, il est très... On n'en parle pas assez.
On n'en parle pas
et
assez.
Vraiment, c'est un besoin vital. Et moi, en tant qu'homme, je ne vis pas ce que les femmes vivent, effectivement. Mais moi, j'ai appris des choses. Et, tu vois, moi, si plus tard j'ai une fille...
Non,
je
mais
sais
avant
que je
même
fais...
de parler de ta fille, Roméo,
même ma
sœur, parlant de ta sœur, voilà, c'est des questions que peut-être tu n'auras pas, tu n'osais pas poser.
Parce que moi, de mon expérience personnelle, des fois, on va dire que quand elle a besoin d'argent et qu'elle me dit que c'est pour ça, moi je donne sans compter, évidemment, voilà. Parce que je sais dans ma tête que c'est quand même important, que je peux pas ne pas dire non, mais je savais pas que c'était vraiment
aussi vital
quoi, à ce degré là. Et je pense aux gens qui n'ont pas peut-être la même chance que moi et ma sœur de pouvoir les payer sans problème, merci, mais voilà, c'est vraiment un sujet dont il faut parler. Parce que quand on vous a dit tout à l'heure, quand il faut faire le choix entre un lait de bébé et une précarité menstruelle, tu fais le choix du lait de bébé. Ton lait, il boit. Mais si après, toi, tu ne peux pas aller au travail parce que tu as un problème de frère. C'est problématique. C'est vraiment problématique.
Et justement,
en rebondissant sur le fait que, par exemple, moi, j'étais un peu ignorant par rapport à ce sujet-là, qu'est-ce que vous pensez que les citoyens en général, peut-être en dehors des associations, etc., vraiment un citoyen normal, comme moi, comme Coco, même si on est dans des associations, qu'est-ce qu'il peut faire?
Alors, citoyen normal, normalement, chaque fois qu'il y a des collectes de protection hygiénique, n'hésitez pas à faire des dons. Essayez de faire constamment des dons de protection hygiénique, même quand vous donnez... bon, c'est vrai qu'on précise toujours alimentaire, mais pourquoi pas rajouter toujours un don de produits hygiéniques. Aussi soutenir les associations, participer aux débats, aux ateliers de sensibilisation, aux débats sur le sujet. Ouais. Donc,
Et en parler, tout
simplement. Et en parler, sensibiliser autour de vous. N'hésitez pas à avoir un petit endroit avec plein de serviettes, un peu comme vous pouvez avoir un petit endroit avec plein de bonbons qu'on voit dans les bureaux. Mettez plutôt des serviettes. Moi, je sais que ça m'a beaucoup sauvée quand j'étais étudiante. J'arrive quelque part et je prends deux, je dis je peux. Et ils me disent oui, vous pouvez. Et je me dis ah, ça fait deux, ça fait déjà deux, c'est bien.
Incroyable.
Vous voyez, donc n'hésitez pas.
Un petit détail comme ça, ça peut tout changer.
Et on peut même l'instaurer dans à la radio, si ça se trouve.
C'est une idée.
Qu'on
va en parler tout de suite.
Non, mais ce que je veux dire, c'est quelque chose qui n'est pas forcément dédié au personnel de la radio, mais on sait qu'on a des bénévoles qui viennent ici et on a des situations...
Parce que c'est une radio bénévole, il faut le rappeler.
Vous serez surpris de voir que le panier sera souvent
vide.
Et
heureusement,
oui,
ça sera vide.
Il faut que ces gens
ne touchent pas aussi, c'est encore un autre problème, parce que tout le monde
tout
se
à fait.
Demande...
Mais c'est pour dire que le besoin, il est réel.
C'est ça, il ne faut pas que ça soit une surprise, en fait. Il faut presque que ça soit naturel, c'est normal. C'est vraiment... priorité monstrueuse, il ne faut même plus que ça existe, en fait. Il faut vraiment qu'on fasse en sorte que...
Je sens que vous avez un conquis, là. Lui, il a juste envie d'éradiquer carrément.
Oui, n'hésitez pas à en parler pour briser le tabou.
Oui, il faut
briser
le tabou, vraiment.
Surtout briser le tabou.
Ouais. Parlez-en à vos filles, à vos sœurs, à vos amis, vraiment, c'est pas... Il faut qu'on arrête de que ce soit un sujet tabou, vraiment. Pas besoin d'entrer dans les détails, mais si vraiment tu demandes à la personne... Est-ce que ça va? Est-ce que tu as besoin de ça? Et comme elle a dit, aider les associations, c'est aussi
le plus
simple.
Oui, avoir un petit point où vous déposez des serviettes et n'hésitez pas d'en parler à votre équipe et de dire si jamais vous avez des besoins, vous savez que là, vous pouvez en avoir.
Tout à fait.
Et un petit délai comme ça peut changer la vie de quelqu'un.
Tout à fait.
C'est ça.
Donc, on va se tourner vers Valéria pour qu'elle nous donne aussi, effectivement, un petit aperçu de ce qu'elle a peut-être eu envie de partager. Est-ce que peut-être il y a des choses, un dernier mot ou un moment, c'est le moment solennel où tu voudrais peut-être susciter de l'espoir, susciter effectivement un moment de solennel avec des gens qui t'écoutent et que tu aimerais effectivement encourager à ce moment-là où tu es en train de vivre quelque chose, on va dire, une première qui est de passer dans une radio avec nous.
Oui, bien sûr. Moi, je vais parler avec toutes mes proches et toutes mes amies, avec toutes les gens autour de moi de cette collecte 13 à 14 mars à Villers de Nancy.
Notez bien la date du 13 et le 14 mars 2026. Et ça, ouais, ça se passe vrai. Où ? À Villers-les-Nancy.
C'est cette vendredi et samedi à Monoprix, Villers-les-Nancy, de 8h30 à 19h.
C'est ça.
13 et 14 mars.
De 8h30 à 19h.
Ouais. Toute la journée, pendant toutes les journées.
Les deux journées du 13 et du 14 seront dédiées à la collecte des dons.
Oui, donc, et venez moi, faire des j'aimerais dons, ouais. inspirer oui, toutes les mondes de Nancy. Nancy, vraiment, c'est une ville très solidaire. Ouais. Et cette collecte, c'est l'occasion de la montrer encore une fois, notre solidarité. Et souvent, la solidarité commence par un geste très, très simple.
C'est ça.
Et aujourd'hui, on a parlé beaucoup de choses importantes pour chaque, dans chaque famille, en fait.
Tout à fait.
Et moi, j'invite vraiment les habitants à participer de cette action des Libactives qu'on va faire vendredi et samedi pendant toute la journée.
Oh. Merci, Valéria.
Merci beaucoup, Valéria. Je rappelle que donc elle s'appelle Valéria Solovieva. Et elle nous vient tout droit de la Russie. Elle a fait donc un parcours atypique. Une femme battante qui a repris tout de zéro. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers de voir ce que ça donne, de se faire confiance et de croire en ses rêves et d'aller au bout. Justement, elle s'est battue. Et aujourd'hui, avec ses enfants, elle est en train de tout faire pour pouvoir les élever et se mettre, on va dire, à la hauteur de ce qu'elle demanderait d'avoir comme maman. Et cet exemple que tu incarnes, j'aimerais qu'à travers justement cette émission, nos auditrices et auditeurs qui se retrouveront peut-être à ta place puissent s'en inspirer pour donner encore espoir à d'autres personnes qui se diront, bah oui, pourquoi si Valéria y est arrivée, pas moi.
C'est ça.
Et donc, ouais, c'est grâce à ça.
J'espère. J'espère.
On va avoir plus des Valéria.
et Laurence aussi.
Eh bien, on va se tourner vers Laurence.
Un dernier mot, Laurence.
Son dernier mot.
Ouais.
Alors, donc, un dernier mot. Donc, dont je disais qu'un geste, comme Valéria disait, un petit geste simple peut changer beaucoup de choses. Et donc, un paquet de protection hygiénique peut sembler banal, mais pour certaines femmes, ça représente le respect, ça représente la dignité. Donc, j'invite les auditeurs, les auditrices, les associations, les hommes, tout le monde à vraiment mettre la main voilà, dans le panier et donner et faire des dons. Venez le 13 et le 14 au Monoprix de son ville, à Villers-les-Nancy. Ouais. Venez donner des protections hygiéniques. Venez redonner la dignité aux femmes. Venez leur redonner un peu de respect qu'elles méritent, bien sûr. Et changeons ensemble, changeons les choses pour elles.
Alors, juste avant de conclure, j'avais juste un petit... quand tu... Effectivement, Laurence a parlé au début de son histoire, justement, athée particulier qui a croisé ma route.
Ah oui, oui.
À ce moment-là, il faut dire que moi, je maîtrise toujours pas, je découvre comme toi ce sujet aussi loin. Mais maintenant, en y pensant, je me retrouve dans la situation de précarité dans laquelle on était. Et on se demande le nombre de personnes qui vivent ça aujourd'hui. Nous, on a eu la chance de s'entraider, de se serrer les coudes.
Tout à fait.
Et de s'en est sorti.
Oui.
Mais pour justement nos auditrices qui peut-être se retrouvent dans ces situations et qui n'ont personne autour d'eux, et quand je dis personne, mais littéralement personne autour d'eux.
Et on ne réalise pas ça. Hein, c'est
un geste banal, comme on vient de le dire, de leur fournir un paquet de produits hygiéniques peut tout changer, en fait.
Tout à
c'est
fait.
Non seulement un respect, effectivement, pour la dignité de la personne, mais aussi plus loin, c'est-à-dire que c'est une main tendue pour que cette personne ne se sente pas seule. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on reste juste au niveau de l'aide de l'autre, mais je me dis, au-delà, c'est peut-être justement aussi un pont vers une création d'une certaine relation où la personne se sent finalement en confiance. Parce que nous, ça nous a beaucoup rapprochés et ça a bâti une relation de respect entre nous.
Tout à fait.
Et donc, en fait, quelqu'un qui te fait ce geste-là, tu l'admires, tu le respectes. Et donc, à un moment donné, même si tu as du mal à parler aux autres, parce que voilà, souvent se confier, c'est toujours compliqué. À travers ce geste, cette personne pourrait effectivement devenir, ou bien avoir, on va dire, une facilité pour les langues se délient. Et elle peut te parler peut-être d'autres sujets qui n'est pas forcément un sujet du sujet. Enfin, tu sais pas si tu vois là où je veux en venir.
C'est un petit détail comme ça.
Un moteur de création, de lien finalement même.
Oui, oui,
dans
nous
la société.
On a eu cette chance quand on était donc dans des moments de grosse précarité. On communiquait, on discutait, donc on n'a pas eu ce souci. Mais pour des femmes, par exemple, migrantes qui arrivent, qui ont un souci de langue, qui ont un souci, qui ne connaissent personne, c'est vrai que ce geste, avoir des protections hygiéniques comme ça, qu'on vous les donne, bah déjà, vous vous sentez, vous dites, ah, donc on est conscient de... Tu sais, il y a quelqu'un qui sait...
Qui écoute, qui vous écoute.
Qui sait ce que je vis, qui sait que j'ai ce besoin. Parce que des fois, on se dit, bon, vu qu'on nous donne un plat ou qu'on nous donne un voilà de quoi manger, bah je vais pas en rajouter en demandant, en disant que ça va pas, je vais me débrouiller. Mais dans le débrouiller, il y a rien derrière. Donc du coup.
Et pour finir, je dirais, est-ce que vous pensez dans de l'autre côté que de la même manière dont c'est très sérieux, c'est très carré et tout, à un moment donné qu'on a réussi à peut-être que cette manière d'être aussi très sérieux ne marchera pas forcément cette approche avec certains. Vous pensez qu'on peut en rigoler, qu'on peut faire des blagues avec genre, est-ce qu'il y a, vous savez, je ferai toujours appel aux Ivoiriens qui ont toujours cette manière un peu second degré de faire passer des choses. Est-ce que vous pensez qu'on est capable, enfin, on pourrait imaginer que pour certaines personnes, le second degré ou des blagues peuvent aller permettre à quelqu'un de se confier. Est-ce qu'on peut blaguer de ça, en fait?
En fait, moi, je dirais qu'il y a une autre approche. On parle souvent du théâtre des opprimés. C'est un théâtre qu'on utilise pour justement parler un peu des sujets tabous.
Le racisme, l'esclavage, la
des
colonisation.
Sujets tabous,
voilà.
Des sujets tabous.
Je vois très bien parce
et
qu'on a eu à
recevoir... Et qui peut bien être utilisé dans ce cas. Parce que justement, parce que c'est des conversations difficiles. On a des religions où lorsqu'une femme a ses menstrues, bah, soit y a tu peux être mise de côté pour un moment, tu vois. Donc ce genre... Il y a une culture qui fait que pour certaines femmes, ce sera difficile d'aborder le sujet. Donc
je pense
coup,
que,
il faut toujours
en fait,
trouver des approches.
Ne suffit pas pour parler. Parce que là, j'ai trop. En plus, on continue. En plus, j'ai envie que l'émission. On doit vous revoir.
Et pour dire encore un autre mot.
Elle veut rajouter encore.
En donnant justement des protections hygiéniques aux femmes, c'est aussi une façon de leur redonner confiance en soi.
C'est vrai.
Donc, quand on n'a pas de protection, on perd confiance en soi.
On perd confiance en soi.
Ça nous déshumanise.
C'est ça.
On ne sait plus si on est être humain, si on
sait
plus
ce qu'on est. J'aimerais pas qu'on finisse l'émission sur
vraiment.
Non, mais c'est important de le dire quand même, je pense.
Désolé, c'est un sujet aussi sensible. Donc, du coup, les protections, le don de protection peut redonner la confiance en soi. Ça peut redonner le sourire, redonner le respect, la dignité, et c'est super
important. C'est
important
de le dire que c'est pas une question de
se dire, c'est vrai que je suis dans des problèmes, c'est vrai que je suis en précarité, mais je reste digne.
C'est ça. Ouais. C'est pas une question de visage de l'autre qui va te voir et qui va dire, ah, elle est pas hygiénique. Mais c'est vraiment, même personnellement, je pense. Que c'est...
Non, mais c'est sûr, ce ton grave, en tout cas, qu'on sera obligé de clore cette émission.
Coco, il n'a pas aimé, mais c'est important.
Oui,
ce qu'il a dit, c'est important.
Et effectivement, j'ai compris que les dames ne sont pas venues rigoler sur ce plateau.
Attention.
Et que le sujet est très intéressant, très important. Et j'espère qu'à travers cette émission, au bout d'une heure du compte, nous avons pu quand même véhiculer ce message grâce à vous.
C'est ça.
Et vous nous avez, en tout cas, nous, sur ce plateau, instruit. Heureusement.
Moi, vous m'avez eu. Vous m'avez eu. Moi, je vais aller me battre.
Deux hommes que finalement vous avez effectivement eu. Et on va dire finalement, le hasard fait bien les choses. Et nous avons pu avoir nous-mêmes cette curiosité de connaître un peu, enfin, d'en savoir un peu plus. Et moi, je sais que dans les coulisses tout à l'heure, je vais encore en parler, mais pendant plusieurs minutes avec vous, et ça me ferait plaisir
de pouvoir continuer
avec vous en off. Merci.
En tout cas, merci beaucoup Laurence,
merci
beaucoup Valéria, merci beaucoup Coco. Je rappelle, le 13 et le 14 mars, Villers-Nancy, Monoprix, venez donner des dons pour l'association Live Active. Et même après,
là-bas à 8h30.
8h30, on sera là.
Super, merci.
On espère vous voir. Merci beaucoup. C'était l'Écho d'Afrique sur RCN. À bientôt.
À très vite.
À bientôt.